Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice, j'en perds ma voix. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Timothy Snyder est un très grand historien américain.
Oui, son livre « Terre de sang, l'Europe entre Hitler et Staline » en particulier est un chef-d'œuvre. J'avais été beaucoup moins convaincu par le bref essai qu'il a publié au lendemain de la victoire de Trump au présidentiel qui s'appelait « De la tyrannie, 20 leçons du XXe siècle ». Faire de Trump l'alter ego des tyrans totalitaires d'hier m'avait semblé pousser le bouchon un peu loin. Mais après les événements extravagants qui se sont déroulés au Capitole le 6 janvier, je me demande si ce n'était pas Tim Snyder qui avait raison. Alors je l'appelle Tim parce que j'ai bien connu Timothy Snyder. Nous avons partagé le même étage d'une maison estudiantine de Banbury Road à Oxford durant l'année universitaire 1992-93. On nous avait logés côte à côte car nous étions réputés travailler l'un et l'autre sur l'histoire de la Pologne. Tim était alors titulaire de la prestigieuse bourse Rhodes, celle qui avait amené Bill Clinton à Oxford quelques années plus tôt. J'avais été élu moi-même Mid-Career Fellow du St. Anthony's College et c'est au St. Anthony's que nous assistions tous les deux passionnément au séminaire de Timothy Garton Ash. C'était alors le point de rencontre de tous les étudiants de troisième cycle se spécialisant sur l'Europe centrale. Et déjà, ce jeune étudiant américain m'avait paru dominer cette brillante assemblée par son haut niveau de compétences, de réflexion et par sa capacité à s'assimiler des langues étrangères, cas assez rare chez les Américains. Quelques années plus tard, il m'a hébergé chez lui à Prague où il poursuivait ses recherches. Et ces lumières m'ont amené à réinterpréter plusieurs scènes dont j'avais été témoin au même endroit à Prague durant la révolution de velours en novembre 1969. Mais je raconterai ça dans mes mémoires. Plus récemment, il m'a accordé, Tim Snyder, des interviews toutes passionnantes dans l'une de trois quarts d'heure destinée à cette radio, France Culture. Mais les responsables de l'époque, qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, ne l'ont pas jugé digne d'intérêt. Quelle erreur ! Car Timothy Snyder est devenu depuis l'un des intellectuels publics américains qui compte. Dans le long papier d'analyse qu'il a publié dans le New York Times la semaine dernière, il revient sur le parallèle donc entre Trumpisme et fascisme. La post-vérité, écrit Snyder, c'est le pré-fascisme. Et Trump a été notre président post-vérité. Et c'est vrai que sans un minimum d'accord préalable sur ce qu'est la réalité, il n'y a pas de dialogue démocratique qui tienne. Trump a commencé sa carrière politique en assénant, on s'en souvient, des vérités alternatives. Il a construit un univers de mythes parallèle à la vérité. Tout un délire complotiste a été monté autour de lui. Elle le dépeint comme en guerre secrète contre un état profond tenu par des réseaux pédophiles et des cultes sataniques. Mais à partir du moment précis, soit au mois d'octobre dernier, où il a commencé à prétendre qu'il ne pouvait pas perdre les élections et que s'il les perdait, ce serait nécessairement l'effet d'une fraude, alors son comportement a commencé à laisser présager un coup d'État. À partir de là, écrit Timothy Snyder, il a menti à une cadence peut-être inégalée. Il a construit un récit à destination des millions de fidèles qui le suivaient dans sa fabrication d'une réalité alternative, une alter-réalité selon laquelle il aurait gagné des élections qu'il a en réalité largement perdues, puisqu'avec 7 millions de voix d'avance, Joe Biden a obtenu le vote de 306 grands électeurs contre 232 pour Trump.
Et Brice, pour Snyder, les militants républicains se divisent en deux catégories. Ceux qui acceptent encore de jouer selon les règles du système politique et ceux qui rêvent de le briser, leur alliance brinque-ballante contraint leur parti à des jeux d'équilibre compliqués.
Trump, écrit Snyder, était différent des autres casseurs républicains dans la mesure où il paraissait n'avoir aucune idéologie. Son intention était de casser le système pour servir sa propre cause. De ce point de vue, son pré-fascisme est très loin du vrai fascisme. Sa vision n'a jamais dépassé celle que lui renvoyait son miroir. Et c'est sans doute ce qui explique le caractère aberrant de la prise du Capitole. Ses troupes n'étaient guidées par aucun objectif précis. Je cite « Difficile de trouver un précédent comparable où l'on s'est emparé d'un bâtiment aussi prestigieux pour y passer la plupart du temps à déambuler ». Mais le mal est fait. Le mythe de l'élection volée risque d'avoir la même efficacité que celle du coup de poignard dans le dos pour l'extrême droite allemande de l'entre-deux-guerres. Le camp des casseurs républicains va s'en servir, y compris ceux des dirigeants qui rêvent de prendre la place du chef comme Ted Cruz ou Josh Hawley. Pour l'heure, Trump est le martyr en chef, le grand prêtre du mensonge, c'est le chef des casseurs, mais les joueurs républicains, eux, ne veulent plus de lui. Dépouillé de ses fonctions présidentielles, il deviendra aussi encombrant qu'en 2015. Mais sa tentative de coup d'État doit constituer un avertissement, écrit Snyder. Son pré-fascisme vient de révéler une nouvelle possibilité dans la vie politique américaine, conclut-il. Dans le complot contre l'Amérique, Philip Roth avait imaginé un lent glissement des États-Unis vers le fascisme à la faveur d'une victoire imaginaire de Lindbergh au présidentiel de 1940. Il nous manque à présent un romancier pour nous raconter une nouvelle victoire de Donald Trump aux élections de 2024.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On vous retrouve demain